Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Au fil des pages. Comme chaque mois, nous retrouvons notre partenariat avec la Revue des Deux Mondes, mais à partir d'aujourd'hui, sous une nouvelle forme. Plutôt que de présenter l'ensemble du numéro, il nous paraît plus judicieux d'en approfondir un sujet en présence de son auteur. Dans son numéro d'octobre-novembre 2008, à la veille des élections américaines, la Revue des Deux Mondes s'interroge sur la prochaine Amérique. Sur cette Amérique qui arrive, est-elle vraiment en perte de vitesse, comme le sous-entend notre regard européen ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Armand Laferrère, qui signe dans la Revue des Deux Mondes de ce mois-ci un article sur l'influence des États-Unis dans le monde, intitulé « Politique étrangère vers un second siècle américain ?» Alors bonjour Armand Laferrère. C'est un honneur de vous recevoir au micro de Canal Académie.
C'est très gentil de m'accueillir.
Puisque je précise à nos auditeurs que vous vivez au Canada, vous n'êtes que de passage à Paris. Et merci de cette halte au Hockey Conti.
Il y a de pires endroits pour s'arrêter.
Oui, c'est vrai. Je vous présente rapidement, vous êtes normalien, énarque, ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Vous venez de publier aux éditions Lattès, dans la collection Idées fausses, vraies réponses, l'Amérique est-elle une menace pour le monde ? Dans votre livre, tout comme dans votre article de la Revue des Deux Mondes, vous développez l'idée originale et à contre-courant d'une politique étrangère américaine garante de l'équilibre mondial. Ce qui confère aux États-Unis un premier rôle dans la politique mondiale. Est-ce bien ça ?
Bien sûr. Et je ne sais pas si c'est si original. Quand on est la première puissance du monde, on a intérêt à faire en sorte que le monde reste ce qu'il est. Les interventions et la présence militaire américaine à travers le monde ont très largement et essentiellement pour objectif de stabiliser, d'éviter les conflits qui menacent et le réussissent assez bien dans l'ensemble. La présence militaire américaine en mer de Chine est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de guerre d'invasion de Taïwan par la Chine. La présence militaire américaine dans le golfe Persique est une des raisons pour lesquelles les conflits entre la Perse et les États arabes sont limités pour l'instant à quelques conflits par procuration à l'intérieur de l'Irak et qui sont eux-mêmes en train de décroître, et ainsi de suite.
Et cette politique étrangère des États-Unis repose, elle, sur la puissance donc américaine. Et une des idées reçues en Europe est qu'on assiste actuellement à son déclin. Et vous contredites cette chose, le déclin américain.
L'Amérique représente économiquement un quart de la richesse mondiale. Aujourd'hui, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. Oui, il y a des puissances qui croissent. La Chine et plus récemment l'Inde. Mais il y en a aussi qui décroissent, et notamment l'Europe, dont la part dans la richesse mondiale diminue, alors que celle de l'Amérique reste stable. Donc, il n'y a pas de déclin américain quand on regarde la part de l'Amérique dans la richesse mondiale. Il y a une stabilité, ce n'est pas non plus une progression, mais c'est une stabilité avec certaines régions montent, d'autres descendent. En plus de cela, les États-Unis ont une puissance militaire absolument unique. C'est la seule puissance au monde qui est présente partout. Leur budget militaire est égal à celui des 30 budgets militaires suivants.
Vous citez le chiffre de 45% de la force mondiale.
D'après certaines estimations sérieuses, c'est très difficile de savoir combien vraiment les gens dépensent pour leurs armées. En effet, 45% du budget militaire mondial serait le budget américain. Une présence culturelle également unique. Il y a d'autres pays qui ont une influence culturelle à l'extérieur de leurs frontières, mais aucun qui n'a la même influence culturelle à l'extérieur de ses frontières que les États-Unis. La combinaison de
ces pays soutenu par une bonne démographie.
Et effectivement, un pays dont la démographie est encore en croissance, contrairement à l'Europe, à la Russie et à la Chine. Donc l'avenir appartient un peu plus, du point de vue le plus élémentaire, c'est-à-dire combien de gens il y aura aux États-Unis qu'à l'Europe, à la Russie ou à la Chine. Un peu moins qu'à l'Inde, qui est un autre exemple de puissance qui est en train de monter, qui a à la fois une démographie saine et une économie qui croît, mais qui a commencé à croître assez tard par rapport à d'autres. Donc il y a encore beaucoup de temps avant de voir venir une Inde qui serait un contre-pouvoir.
Un des piliers de la puissance américaine, comme vous venez de le rappeler, repose quand même sur sa force économique. Et est-ce que la crise financière de ces temps derniers ne risque-t-elle pas d'affaiblir le colosse, d'en faire un colosse à pied d'argile ?
elle va l'affaiblir évidemment pendant le temps que durera la crise et de manière limitée. Il ne faut pas non plus exagérer des crises, il y en a beaucoup, celle-là est plus grave que d'autres, mais elle ne touche pas que les États-Unis. Or, l'influence est une question relative. Elle touche l'Europe, elle touche la Russie, elle ne semble pas trop toucher la Chine, donc ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la Chine monte va se poursuivre. Elle n'est pas assez durable ou profonde pour mettre en cause le fait que les États-Unis restent la première puissance du monde. À court terme, oui, comme beaucoup d'argent sera utilisé à remettre l'économie en place, il y aura moins de ressources disponibles pour des interventions à l'extérieur. Mais ça n'est pas une rupture de tendance que nous voyons, c'est une rupture dans la tendance.
Donc vous ne croyez définitivement pas au déclin américain ?
Pas pour la génération ou les deux générations
même
à
si
venir.
Même si déclin ne veut pas dire fin.
Bien sûr, mais pas pour la génération à venir. Au-delà, c'est très difficile, personne ne peut prévoir. Mais les éléments structurels restent des éléments structurels qui favorisent le maintien des États-Unis comme première puissance mondiale, avec derrière eux une Chine qui croit régulièrement, progressivement, qui a une politique...
Qui n'a peut-être pas une bonne démographie,
mais qui
n'a pas besoin,
voilà.
Ils sont tellement nombreux qui est...
Voilà, mais qui en revanche a une démographie faible, mais qui croit à la fois économiquement, structurellement, dans son influence, qui est en train de s'affirmer comme une deuxième puissance mondiale, mais qui est très loin de pouvoir devenir une première ex aequo.
Aussi, la deuxième idée et force que vous développez, c'est au niveau des États-Unis, donc de leur politique étrangère, c'est le côté altruiste des États-Unis.
Oui, alors entendons-nous bien, pas plus qu'une autre puissance, les États-Unis ne vont s'amuser à dépenser leurs ressources de manière contraire à leurs intérêts. En revanche, contrairement à d'autres puissances, les États-Unis sont contraints par une opinion publique finalement très différente de celle des autres puissances qui jouent le jeu de la puissance pure. L'opinion publique américaine, toujours réticente vis-à-vis des interventions à l'étranger, et ne les accepte que si ces interventions peuvent être décrites de manière crédible comme ayant des conséquences bénéfiques pour les peuples auprès de qui on intervient. Et de ce fait, cela limite la capacité des États-Unis à avoir une politique de puissance pure. C'est une politique de puissance, il n'y a rien de mal à ça, c'est ce que tout le monde fait, mais c'est une politique de puissance limitée par une opinion publique où il y a en effet beaucoup plus d'altruisme que dans la plupart des autres opinions publiques.
Autre caractéristique des États-Unis, c'est qu'ils sont les seuls à pouvoir intervenir partout.
Absolument.
Et leur intervention fait partie de la politique d'autres pays. Dans les rapports entre la Chine et la Russie, par exemple, la Chine est rassurée de voir les États-Unis intervenir entre les deux, si je veux dire.
Et réciproquement, je ne sais pas à quel point la Chine se méfie de la Russie, mais la Chine se méfie du Japon. Et le fait que le Japon ait des bases américaines est une très bonne nouvelle pour les Chinois. La Russie se méfie de la Chine parce que la Sibérie se dépeuple et que la Russie voit une influence croissante de la Chine sur la Sibérie avec méfiance, donc est contente que la Chine reste occupée par la présence américaine en mer de Chine. Et on a bien vu ceci récemment, lorsqu'après l'invasion de la Géorgie par la Russie en août dernier, la Russie a cherché à construire un bloc anti-américain, a demandé à la Chine de soutenir cette position, et la Chine a refusé. La Chine, précisément parce qu'elle est en train de s'affirmer comme la vraie deuxième puissance mondiale, sait que c'est une rivale des États-Unis, mais que la relation importante, c'est la relation avec les États-Unis, et qu'elle ne va pas mettre ses œufs dans le panier russe, la Russie étant une puissance structurellement plus faible, qui va rester beaucoup plus faible que la puissance américaine.
Le gros enjeu qui attend la politique étrangère américaine se trouve au niveau de l'Iran et de la question atomique.
Oui, parce qu'un Iran nucléaire aurait une capacité d'influence dans le monde arabe absolument considérable. Quand on a un voisin qui a une bombe atomique et qui vous dit de faire d'obéir à ses ordres, il est beaucoup plus difficile de résister. Et si l'Iran s'affirme comme le leader du monde musulman, ben cela forcément affaiblira les alliances actuelles très nombreuses entre les États-Unis et des pays arabes de la région, qui sont précisément destinés à maintenir pour les Arabes, leur indépendance par rapport aux ambitions iraniennes.
Oui, puisque ça aussi, c'est une idée qu'on n'a pas forcément en tête. L'Irak, l'intervention américaine en Irak, n'a pas ruiné la politique américaine dans cette région.
Non, il y a une impopularité entretenue souvent par les gouvernements, parce que c'est une façon de détourner l'opinion publique de son propre mécontentement. Une impopularité américaine dans le monde arabe, c'est vrai. Mais il y a, en termes de politique étrangère, au contraire, eu un rapprochement des pays arabes avec les États-Unis pendant la décennie... quasiment la décennie, les 7 ans depuis le 11 septembre 2001. Rapprochement parce que les Arabes ont peur des ambitions iraniennes, parce qu'ils ont besoin très souvent de solidifier leur régime qui est menacé de l'intérieur. Et on a une série de très bons alliés américains au Moyen-Orient, que sont la Jordanie, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite depuis encore plus longtemps, qui assurent une tête de pont à l'influence américaine dans la région très, très, très considérable.
Donc si on suit bien votre raisonnement, il ne faut surtout pas qu'on en arrive à l'inaction américaine.
Écoutez, l'inaction américaine, c'est renforcer l'Iran, l'Iran d'Ahmadinejad, hein, l'Iran à la fois négationniste et menaçant d'une nouvelle holocauste, le peuple d'Israël et voulant prendre le leadership de tout le monde musulman. C'est renforcer la Russie, dont les Géorgiens ont vu récemment qu'elle ne se comportait pas toujours de manière extrêmement courtoise avec ses voisins. Et aucun de ces deux développements ne serait favorable pour la paix mondiale. Donc avoir une suprématie américaine dans le domaine de la géopolitique est effectivement très stabilisateur par rapport à cette perspective.
Donc il nous reste à espérer donc, un siècle américain.
Voilà, un deuxième siècle américain, c'est comme cela qu'il commence. Maintenant, à long terme, personne ne peut prévoir.
Merci Armand Laferrère.
Je vous en prie, merci d'avoir reçu.
Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de publier aux éditions Lateste, l'Amérique est-elle une menace pour le monde ? Je renvoie également au numéro de la Revue des Deux Mondes sur la prochaine Amérique, disponible en kiosque, ainsi que sur le site internet revuedesdeuxmondes.fr. Au revoir et merci d'avoir suivi cette émission.